RFI, 8h30 à Paris N'Djamena, 7h30 à Conakry. La Guinée à la une, Grégoire Morelli, il n'y aura pas de fin de transition aujourd'hui.
Ah oui, elle aurait dû arriver à son terme ce soir minuit, mais elle a été reportée sans qu'aucune échéance ne soit fixée. Après 3 années dirigées par les militaires, on fera le bilan de cette transition en Guinée dès le début de ce journal. Nous serons aussi au Niger dans cette édition avec cette arrestation qui avait suscité une vague d'émotions en Afrique de l'Ouest, celle de Moussa Tchangari. Cette figure de la société civile devait être présentée à un juge hier avant que l'audience ne soit finalement reportée. Il reste donc en garde à vue. Nous rejetons catégoriquement ces accusations. Les mots du chef de la diplomatie béninoise, Cheikhoun Bakary, répond ainsi aux accusations formulées par son voisin le Niger sur de supposées aides à des terroristes. Le ministre a également convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger au Bénin. Enfin, au Sénégal, les féministes ne pourront pas manifester pour dénoncer les viols que subissent leurs concitoyennes. Décision des autorités qui ont préféré interdire le rassemblement. Pourtant, il y a beaucoup à faire dans le pays sur la question. C'est ce que nous dira une psychologue membre du collectif des féministes du Sénégal. En Guinée, ce dernier jour de l'année 2024 aurait dû marquer la fin de la transition militaire, mais elle ne se refermera finalement pas. Il n'y aura pas de retour à l'ordre constitutionnel, comme le général Mamadi Doumbouya et la junte du CNRD s'y étaient engagés avec la CDAO. Aucune nouvelle échéance n'a été annoncée. Conséquence, la plateforme des Forces vives de Guinée, qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile, annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités transitoires dès ce soir minuit et appelle également à manifester à Conakry lundi prochain, le 6 janvier précisément, alors que l'année se termine dans un climat tendu. On fait le point sur l'évolution de cette transition guinéenne avec Sidi Yansané.
Peu après sa nomination en mars dernier, le Premier ministre Bahoury annonçait sur RFI que la durée de la transition dépendait des actions sur le terrain, avant de souligner que 2025 était une bonne période pour couronner l'ensemble du processus. Mais alors que s'ouvre la nouvelle année, aucune des 10 étapes majeures du chronogramme de la transition ne sont achevées. Selon député, le recensement administratif à vocation d'état civil, toujours en cours, et l'élaboration de la nouvelle constitution, bloquée au stade d'avant-projet depuis 3 mois, et ce, malgré l'engagement du président de transition Mamadi Doumbouya de tenir le référendum avant 2025. Cette année, à la veille du dernier sommet de l'OIF, le ministre des Affaires étrangères Maurice Nda Kouyaté avait assuré au Conseil permanent de la francophonie que toutes les élections en Guinée se tiendraient dans l'année qui commence, mais aucune date n'a été précisée, alors que les partis d'opposition et le mouvement citoyen FNDC annoncent une série de manifestations à Conakry à partir de lundi prochain.
Sidi Yansané, on reste en Guinée avec cette information. L'opposant Aliou Touba a passé sa première nuit à la maison centrale de Conakry. Le président du parti Modèle a été placé sous mandat de dépôt. Il fait face à des poursuites pour offense au chef de l'État. Son avocat dénonce, lui, un procès purement politique. L'opposant Aliou Touba, très critique de la junte au pouvoir, avait été arrêté jeudi dernier à la frontière sierra-léonaise alors qu'il se rendait à Freetown. Et son arrestation est la dernière en date d'une longue série sous la junte du général Mamadi Doumbouya. Au Mali maintenant. Issa Kaou Djim, condamné hier lundi à 2 ans de prison, dont un ferme. C'est ce que RFI a appris auprès de son entourage et de sources judiciaires. Cette figure politico-médiatique malienne était poursuivie pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information. Cela concerne des propos qu'il avait tenus sur le plateau de Joliba TV et où il avait mis en doute la crédibilité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso. Issa Kaou Djim est incarcéré depuis le 13 novembre dernier. Il devra donc encore purger 10 mois et demi de prison. Judiciaire toujours, mais au Niger cette fois. Moussa Tchangari est toujours en garde à vue. Selon son association, le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen devait être présenté à un juge hier, mais cela a finalement été reporté. Moussa Tchangari, rappelons-le, a été interpellé à son domicile à Niamey le 3 décembre alors qu'il rentrait d'un déplacement en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Il est notamment accusé d'apologie du terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Alioune Tine, fondateur du think tank Africa Jom Center, fait partie des signataires d'une tribune en soutien à cette figure de la société civile. Je vous propose de l'écouter.
Moussa Tchangari est un des leaders les plus en vue de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Un homme extrêmement engagé, qui a une expertise avérée. Vraiment, son arrestation pour nous, c'est quelque chose de scandaleux. Moussa Tchangari est un homme libre, est un intellectuel critique, qui a toujours été très critique vis-à-vis de tous les régimes passés, également critique vis-à-vis de la politique française en Afrique. Donc, sa détention est totalement arbitraire pour nous. Donc, nous recommandons au gouvernement nigérien de le libérer immédiatement et sans condition et de le laisser continuer à travailler pour la société civile, pour la promotion justement de la bonne gouvernance et également pour vraiment dénoncer la corruption partout où ça existe sur l'Afrique de l'Ouest.
Alioune Tine, fondateur du think tank Africa Job Center, qui fait donc partie de ses signataires pour une tribune de soutien à Moussa Tchangari. C'était au micro de Magali Lagrange. On reste au Niger, dont le chef de la junte, le général Abdourahmane Tchiani, avait affirmé le 25 décembre à la télévision publique que le Bénin était impliqué dans des actions de déstabilisation de son pays, ce dernier évoquant des achats de matériel distribués à des terroristes. Eh bien, les autorités béninoises, par la voix du ministre des Affaires étrangères, disent contester ses accusations dans un courrier adressé à son homologue nigérien, un courrier dont RFI s'est procuré la copie. Et hier, Cheikhoun Bakary a convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger au Bénin. À Cotonou, plus de détails dans la correspondance de Jean-Luc Aplogan.
Ce n'est pas la première fois que les autorités béninoises protestent contre les accusations de la junte nigérienne. En juin dernier, Patrice Talon en personne l'avait fait quand Niamey l'a accusé de masser des troupes étrangères à ses frontières pour attaquer le Niger. Cette fois, c'est son ministre des Affaires étrangères qui monte au créneau. Cheikhoun Bakary a convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger à Cotonou pour protester officiellement. Puis il a écrit à son homologue nigérien pour lui dire que les accusations de son patron sont fausses, injustifiées et dénoncées de tout fondement objectif. Le ministre fait savoir que la partie béninoise a même proposé par écrit une rencontre des chefs d'état-major des deux pays pour lever les doutes et les suspicions, une rencontre qu'on attend toujours. C'est la surprise avec ce nouvel épisode. On croyait la décrispation en marche avec la levée de l'interdiction du chargement de brut nigérien à partir du Bénin. Nous sommes au 8e navire citerne aujourd'hui. La nomination d'ambassadeur par les deux pays. On apprend que le ministre des Affaires étrangères du Bénin devait se rendre à Niamey le 20 décembre dernier. Niamey n'a pas encore réagi et on s'interroge ici sur la suite du processus de normalisation des relations en cours. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Au Burkina Faso, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté hier un projet de loi sur l'amnistie concernant les militaires condamnés dans le cadre du coup d'État manqué en septembre 2015. Cette loi permettra au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, d'accorder une amnistie à tous les militaires condamnés dans le cadre de cette affaire, mais sous certaines conditions, à savoir que ces derniers doivent accepter de participer à la lutte contre le terrorisme. Eux, en revanche, sont en train d'être jugés dans l'est de la République démocratique du Congo. Les 23 militaires, au moins des FARDC, ont comparu ce lundi devant le tribunal militaire de la garnison de Boutembo. C'est à plus de 200 km au nord de la ville de Goma. Selon l'armée, ces soldats sont poursuivis pour violation des consignes, désertion, fuite devant l'ennemi, dissimulation de munitions et tentative de viol. Ils ont été arrêtés par la justice militaire au début du mois de décembre, alors que les combats, eux, se sont intensifiés ce mois-ci entre les FARDC, alliés aux groupes armés locaux dits Wazalendo, et les rebelles du M23 dans le sud du territoire de Lubero. Les autorités militaires de la région ont indiqué qu'il allait s'agir là d'un procès pédagogique exemplaire. Je vous le disais en titre, au Sénégal, les associations féministes comptaient se retrouver aujourd'hui à Dakar pour organiser un sit-in nu, les participants et participantes comptant se déshabiller, mais les autorités en ont décidé autrement et le rassemblement a été interdit. Le collectif des féministes au Sénégal qui faisait partie de l'organisation entendait pour sa part dénoncer l'ampleur des violences souvent sexuelles faites aux femmes et aux plus jeunes dans ce qu'elles estiment être dans une indifférence générale. Il faut rappeler que selon l'OMS au Sénégal, 27% des femmes entre 15 et 49 ans ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. Écoutez à ce sujet Aminata Mbengue, elle est psychologue et membre de ce collectif des féministes du Sénégal.
On voulait dénoncer le mutisme en fait des autorités sur la recrudescence des cas de viol et surtout de pédocriminalité. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'on nous signale un cas de viol sur de très jeunes filles ou de très jeunes garçons. Et donc on n'a en fait pas de vision sur ce que les nouvelles autorités comptent faire pour lutter contre la culture du viol au Sénégal, mais aussi pour appliquer l'article 14 du protocole de Maputo que le Sénégal a ratifié depuis 2014. L'article en fait prévoit d'autoriser l'avortement en cas de viol, en cas d'inceste, mais aussi quand la vie de la mère est en danger. C'est aussi toutes les personnes qui sont victimes de violences patriarcales de façon plus large, mais en fait qui n'osent pas le dire parce qu'il y a aussi une certaine culture liée à la masculinité. Et il n'y a pas en fait une ligne claire du gouvernement, du ministère de la Famille et des Solidarités pour vraiment sensibiliser sur les mécanismes des violences conjugales.
Aminata Mbengue, psychologue et membre du collectif des féministes du Sénégal. On va terminer cette édition au Maghreb, plus précisément en Algérie, où dans un discours à la Nation prononcé ce dimanche devant les deux chambres du Parlement, le président Abdelmadjid Tebboune s'en est une nouvelle fois pris vivement à la France. Les Français doivent admettre qu'ils ont tué et massacré les Algériens, a-t-il souligné, revenant sur les questions mémorielles durant la période coloniale et la guerre d'indépendance en Algérie. Il a également appelé la France à nettoyer les sites nucléaires dans le sud algérien sans réclamer les indemnisations pour les personnes touchées par ces essais. Et pour Pierre Vermeren, professeur à la Sorbonne, spécialiste d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient contemporain, ces déclarations sont une rhétorique qui n'arrange pas l'entente entre la France et l'Algérie.
C'est un discours qui reprend les grandes thématiques qui ont été conçues par Bouteflika et par ses proches. C'est des discours qu'on n'entendait pas dans les 40 premières années de l'indépendance, mais à la suite de la décennie noire, on a vu émerger ces discours criminalisant la France coloniale, non pas d'une manière, je dirais, ordinaire, en référence aux guerres, effectivement, aux épisodes les plus tragiques de cette période, mais en allant chercher la thématique génocidaire. Donc tout ça, bien sûr, n'avait jamais été repris par Tebboune, mais c'est fait. Dans un contexte de crise, ce n'est pas très étonnant, mais évidemment, ce n'est pas sur cette base-là qu'une quelconque entente ou réconciliation est possible. Et d'ailleurs, il ne semble pas, quoi qu'en dise le président Tebboune, que ce soit désiré. De toute manière, le président Macron, pendant 7 ans, a essayé de faire ce qui était en son pouvoir avec une bonne volonté manifeste et ça n'a pas été payé de retour, d'où effectivement son changement de politique extérieure.
Pierre Vermeren, professeur à la Sorbonne, spécialiste d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient contemporain. Pour cette fin d'édition, merci à vous de l'avoir suivi. Vous le savez, on le répète, mais l'information continue en tout temps, en tout lieu, sur notre site internet et sur notre application. Tout de suite, vous retrouvez Andréane Mellard pour la suite et la fin de RFI Matin.
Merci Grégoire Morelli.